de l'hiver de sitôt.
Et vous avez enlevé vos lunettes pour nous dire ça.
Tout à fait. Merci, Céline. Tu vois beaucoup plus clair d'un coup.
Bon après-midi à tous. Merci d'écouter France Info. Il est 14h. Benjamin Recouvreur pour l'info.
Le projet de reprise en SCOP, société coopérative, n'a pas convaincu le tribunal des affaires économiques de Nanterre qui a prononcé ce matin la liquidation judiciaire de Brandt, le dernier fabricant de gros électroménagers en France. 700 emplois vont être supprimés. Deux usines situées en région Centre-Val de Loire vont fermer. Le président de la région dit sur France Info sa stupeur. Les 207 bovins du troupeau de l'Ariège touchés par un cas de dermatose nodulaire doivent être abattus aujourd'hui malgré l'opposition de plusieurs centaines d'agriculteurs toujours mobilisés autour du village des Bordes sur Arize. C'est la meilleure solution pour protéger le cheptel français, selon le préfet, qui regrette ce matin une situation dramatique. Le successeur de Gaël Perdriau sera bientôt élu. Le conseil municipal qui va le faire débute à l'instant à Saint-Étienne, une semaine après la condamnation de l'ancien maire dans l'affaire du chantage à la vidéo intime sur son ex-premier adjoint. Si tout se passe comme prévu pour la majorité municipale de droite, Mathieu Bonnour, le premier adjoint Jean-Pierre Berger devrait être élu, mais ce choix est loin d'avoir été une évidence.
Au moment de la condamnation de Gaël Perdriau, la majorité municipale s'est réunie en catastrophe, avec des débats houleux, des insultes même. Siam Labiche, deuxième adjointe, regrette cette cacophonie.
J'avais demandé à ce que cette réunion soit bien préparée à l'avance, parce que nous ne pourrions réfléchir avec bon sens et que l'émotion prendrait le pas sur la raison, et c'est malheureusement ce qui s'est passé.
Un proche de l'ancien maire a été choisi d'une courte majorité pour représenter le groupe municipal. Finalement, mis sous pression pendant plusieurs jours, il s'est retiré au profit de
Jean-Pierre Berger, premier adjoint à la ville de Saint-Étienne.
Toujours dans son bureau. La porte à côté, c'est celle du maire. La pièce est vide. S'il n'y a pas de surprise au moment de l'élection, c'est donc Jean-Pierre Berger qui s'installera dans ce fauteuil.
L'important, c'est pas les bureaux, hein, c'est ceux qui sont dedans. Ça va être un tremplin de nouveau pour passer ces 3 mois et bien finir. C'est tellement important de bien finir le mandat.
Regagner la confiance, montrer de l'apaisement, c'est essentiel pour toute la classe politique locale, affirme Isabelle Dumestre, à la tête du groupe municipal de gauche qui va s'abstenir pour ce vote.
Ils ont fait le choix de maintenir Gaël Perdriau. Aujourd'hui, ils se battent un peu sur sa dépouille pour récupérer les miettes de son pouvoir, mais nous ne présenterons non plus personne. On va pouvoir aller de l'avant.
Elle espère déjà un plus grand respect des élus d'opposition pendant ces prochains mois.
Mathieu Bonnour à Saint-Étienne pour France Info. Un nouveau maire qui sera en poste jusqu'aux prochaines élections municipales en mars. La cour d'appel administrative de Toulouse rendra sa décision le 30 décembre. Elle s'est penchée ce matin sur le chantier de l'autoroute A69 entre Castres et Toulouse. En première instance, la justice avait donné raison aux opposants en annulant l'autorisation environnementale des travaux. Le rapporteur public a demandé de revenir sur cette décision et de permettre la poursuite du chantier. Une enquête ouverte pour homicide involontaire à Toulouse après un nouvel accident mortel sur le chantier du métro, c'était mardi. Un ouvrier intérimaire de 55 ans décédé coincé par un engin de chantier. Un Français sur 3 dit souffrir d'insomnie selon une vaste étude de Santé publique France sur la santé dévoilée à la mi-journée. Des troubles qui concernent davantage les populations les plus précaires. Les Français qui dorment en moyenne 7h30 par nuit. Enfin, les aiglons ne volent pas très haut en ce moment. Ils espèrent bien se relever. Ce soir, le GC Nice retrouve la Ligue Europa de foot. Match contre le Sporting Braga. Après des déboires sur et en dehors des terrains en Ligue 1, le club a perdu ses 5 premiers matchs dans la compétition. Il reste sur 7 défaites consécutives depuis novembre et Maxime Bakier, les Niçois, pourraient même battre un triste record.
Oui, s'il ne bat pas Braga ce soir, l'OGC Nice deviendra le premier club français à enchaîner 18 matchs sans victoire sur la scène continentale. Pour l'instant, depuis mars 2023 et un dernier succès face au Moldave de Tiraspol, le compteur est monté jusqu'à 17, donc ici, comme Lille dans les années 2010. Les Aiglons peuvent donc marquer l'histoire avec une plume noire ce soir ou se rebeller et tenter de briser cette spirale de la lose, puisque le gym a perdu ses 7 rencontres européennes disputées et a même déjà atteint la barre des 15 défaites, toutes compétitions confondues depuis cet été. Aucune équipe ne fait pire cette saison. Des chiffres assez effrayants qui illustrent bien cette descente aux enfers qui n'est peut-être pas terminée. Puisque si Nice s'incline encore ce soir, ce sera la première fois dans toute son histoire que le club enchaînera 8 défaites d'affilée. Un grand 8 à éviter pour se remettre la tête à l'endroit.
C'est sûr que c'est mieux. Maxime Bakier, Nice Sporting Braga, c'est à 18h45 cet après-midi.
Suivez sur France Info. Merci Benjamin Recouvreur.
France Info, midi 15h, Marie Bernardo.
Le ministère de l'Industrie exprime donc sa profonde tristesse après la décision du tribunal des activités économiques de Nanterre. Le groupe d'électroménager Brandt est placé en liquidation judiciaire. La justice refuse le projet de reprise des salariés en SCOP, société coopérative et participative, projet qui aurait permis de sauver la moitié des 700 emplois de l'entreprise qui était placée en redressement judiciaire depuis octobre dernier. Lauriane Delanoë, ce sont donc tous ces emplois qui vont être supprimés.
Oui, la liquidation judiciaire, ça doit entraîner l'arrêt de toute la production de Brandt et ses différentes marques et la suppression donc de tous les emplois. Près de 700 en France. Sur les sites du groupe d'électroménager, il y a les deux usines, l'une près d'Orléans dans le Loiret, l'autre à Vendôme dans le Loir-et-Cher. Des sites aussi en Ile-de-France avec le siège social et le service après-vente. Les salariés sont donc réunis ce matin devant leurs usines pour montrer leur colère avec des feux de palettes. Les syndicats, eux, dénoncent un gâchis, car ces dernières semaines, face au risque de liquidation, les salariés se sont mobilisés pour sauver l'entreprise, entreprise qui appartient à un groupe algérien. Les salariés de Brandt ont monté un projet de SCOP, une société coopérative et participative. Cette offre prévoyait de sauver plus de la moitié des emplois pour continuer à fabriquer les fours et autres appareils dans les usines en France. Une offre écartée donc ce matin par le tribunal des affaires économiques de Nanterre.
Ce projet de SCOP, Lauriane, il était pourtant soutenu par l'État et par les collectivités locales.
Oui, un soutien financier de poids, hein. Au moins 20 millions d'euros de soutien promis en tout par le gouvernement, les régions Centre-Val de Loire et Île-de-France, par la métropole d'Orléans ou encore l'agglomération de Vendôme. Il y avait également l'engagement d'un groupe privé pour cette SCOP. Ça n'a pas suffi pour la justice. Le président de la région Centre-Val de Loire, François Bonneau, dit donc ce matin sur France Info son incompréhension face à la décision. Au gouvernement, les ministres de l'économie et celui de l'industrie font part de leur profonde tristesse. Roland Lescure et Sébastien Martin qui pointent les autres acteurs indispensables qui n'ont pas souhaité se positionner pour sauver Brandt. Alors je vous donne le sous-titre. Il faut comprendre les banques. L'offre de reprise en coopérative manquait d'appui de leur part pour convaincre le tribunal.
Et nous sommes en ligne, Lauriane, avec le député Renaissance de la 3e circonscription du Loir-et-Cher. Bonjour Christophe Marion.
Bonjour.
Merci
bonjour.
D'être avec nous. La désillusion est énorme ce midi.
Oui, la désillusion est énorme. Alors, je suis évidemment le député de la 3e circonscription, mais je suis l'ancien maire de Saint-Ouen. Saint-Ouen, commune dans laquelle se trouve l'usine Brandt. Donc, je connais un certain nombre de salariés personnellement. Et voilà. Et pour moi, je pense à eux. Aujourd'hui, à l'approche des fêtes de Noël, à l'approche de la fin de l'année, recevoir une lettre de licenciement, c'est absolument terrible. Donc je pense à ces plus de 90 salariés, à leurs familles, qui se retrouvent dans la détresse aujourd'hui. On a vraiment fait tous les efforts, côté salariés, côté État, côté collectivité territoriale. Tout le monde a joué le jeu, vous l'avez dit, 20 millions d'euros sur la table. Il manquait pour le tribunal 5 millions d'euros. Et je crois qu'on peut légitimement pointer aussi la responsabilité des banques dans cette affaire.
Ce sont les banques qui n'ont pas joué le jeu, Christophe Marion ?
Alors, c'est évidemment complexe comme cause. Il y a probablement les banques qui ont été frileuses, mais ça, c'est une problématique générale hein, pour le soutien à l'industrie et à l'économie française. Mais il y a aussi un projet industriel qui n'a pas été jugé suffisamment solide. Le groupe Revive est un groupe financier essentiellement. Il y avait un partenaire industriel qui manquait dans cette affaire. Et le tribunal a jugé que cette reprise, au fond, n'aurait pas pu durer dans le temps et que ça pouvait finir par menacer les salariés eux-mêmes à l'occasion du projet de SCOP.
Pour vous, le projet était solide pourtant ou pas ?
Oui, pour moi, le projet, il était solide. Alors évidemment, il y a toujours une prise de risque hein, quand vous reprenez une entreprise de cette taille-là, avec un passif qui était conséquent. Mais je crois que tout le monde doit prendre son risque. J'ai participé au salon Made in France, à l'Élysée, au salon Fabriqué en France. Et là, on est en train de tuer des marques françaises, de tuer du savoir-faire français. C'est pas admissible aujourd'hui. C'est vraiment pas admissible.
Ce n'est pas la première, évidemment. Christophe Marion et le député Debout, François Ruffin, écrit ceci. Un fleuron de l'électroménager abandonné par l'État face à la concurrence chinoise. Sans barrières douanières, sans taxes aux frontières, notre industrie se fait laminer, dit François Ruffin, Christophe Marion.
Oui, alors j'aimerais qu'on fasse pas de politique politicienne dans ces moments-là, par respect pour les salariés. Très franchement, moi j'ai mobilisé Sébastien Martin, ministre de l'Industrie, j'ai mobilisé le ministre de l'Économie, j'ai eu des échanges avec le CIRI à Bercy, autant que j'ai voulu en avoir, et Sébastien Martin est arrivé à Orléans à l'occasion d'une rencontre avec le président de région en disant que l'État mettait 5 millions d'euros dans cette affaire de reprise. Tout le monde a été mobilisé. L'État a été mobilisé, comme les collectivités territoriales, je pense à la communauté d'agglomération du Vendômois, je pense à la région. Tout le monde a fait le job. Donc voilà, je trouve que c'est assez irrespectueux aujourd'hui de faire de la politique politicienne sur le dos de salariés qui vont se retrouver dans la panade. Et moi, je les connais, François Ruffin les connaît pas, mais moi, les salariés de Brandt, Saint-Ouen, Vendôme, je les connais personnellement, je trouve que c'est inadmissible.
L'État ne pouvait pas plus, le gouvernement ne pouvait pas plus, Christophe Marion.
Vous savez, il y a des règles hein, de financement hein, sur ces projets. Il a mis tout ce qu'il pouvait mettre, des avances remboursables, notamment les collectivités à travers des sociétés d'économie mixte se sont engagées sur le foncier également. Il y a des règles. On peut pas faire n'importe quoi.
Non, mais en termes de moyens de pression, en termes de moyens de pression peut-être.
Ah ben, alors les moyens de pression sur les banques, elles ont été mises, mais là je crois qu'on a un sujet sur le financement aujourd'hui. De l'économie, de l'industrie, et les banques sont beaucoup trop frileuses. L'épargne des Français et des Européens finance la Silicon Valley avant de financer nos entreprises françaises. Et ça, c'est absolument illogique. Il va falloir véritablement intervenir sur ce sujet.
Que vont devenir les salariés ? Vous dites les connaître. Salariés qui, je crois, ne sont plus payés après le 15 décembre. C'est dans 4 jours.
Alors, évidemment, tous les services de l'État et des collectivités sont mobilisés. Une réunion était prévue lundi prochain, je crois qu'elle peut être avancée, mais je ne veux pas m'engager parce que tout ça est en cours de constitution, avec l'ensemble des services de l'État concernés, France Travail, etc. Maintenant, il faut d'une part que les salariés partent dans les meilleures conditions possibles, notamment ceux qui ont de l'ancienneté importante. Donc il faut qu'ils partent avec un gros chèque. Parlons très très clairement et très franchement. Et ensuite, il faut les accompagner vers le tissu industriel vendômois qui va pouvoir permettre, parce qu'ils ont des compétences, parce que c'est des bons soudeurs, parce que ils connaissent le pliage, eh bien on va les accompagner vers des entreprises qui pourraient les recruter demain. En tous les cas, c'est le boulot qu'on a devant nous maintenant.
Et c'est aussi la vie de la région qui va s'en trouver impactée, Christophe Marion.
Oui, c'est un symbole, Brandt. C'est De Dietrich, c'est une entreprise qui est pluriséculaire. Donc évidemment, c'est un symbole extrêmement important. Et aujourd'hui, ça secoue avec les familles, avec les salariés. C'est tout le monde au moins qui est en deuil aujourd'hui.
Et merci beaucoup d'avoir pris ces quelques minutes pour répondre à France Info. Christophe Marion, député Renaissance du Loir-et-Cher. Les tarifs des mutuelles ne cessent de flamber, ça s'est confirmé encore cette année, c'est ce que nous apprend une étude de Meilleurs Taux. Et en fonction de votre âge et du lieu où vous habitez, les prix peuvent faire le grand écart. Les plus âgés, les habitants des grandes villes, de régions parisiennes et du pourtour méditerranéen paient plus cher que les autres. Reportage de Claire Sergent.
Si vous habitez Paris, Lyon, Marseille ou Nice et que vous avez 70 ans ou plus, vous cochez toutes les cases pour payer votre mutuelle le plus cher possible. C'est le cas de ce retraité niçois qui aura 70 ans dans quelques mois. Cette année, sa complémentaire santé devait augmenter de 10 euros par mois.
J'allais payer 100 euros sur l'année, ça fait 1200. Ça commence à faire un petit budget. Je les ai appelés, puis j'aurais dit que ça commençait à faire cher et que j'étais prêt à changer de mutuelle s'il fallait. Alors, j'ai pas gagné grand-chose, j'ai gagné 20 euros par mois. Mais enfin, sur l'année, ça fait 200 euros, un peu plus.
En moyenne, les coûts des mutuelles augmentent de 5% pour les seniors, selon Meilleurs Taux. Or, ils paient déjà bien plus cher que les autres. Et si l'on vit dans les Bouches-du-Rhône, il faut compter jusqu'à 30 euros de plus par mois qu'en Vendée ou dans la Manche, par exemple. Alors, il faut négocier et revoir ces garanties, explique Samuel Bansard de Meilleurs Taux.
Si vous avez des lunettes, vous n'allez pas changer de lunettes tous les ans. Idem pour le dentaire. Et c'est clairement le bon réflexe à avoir pour éviter de subir en fait des augmentations répétées sur un même contrat.
Lors des débats budgétaires, le Parlement vient de voter une surtaxe sur les mutuelles. Elle n'est pas censée se répercuter sur les assurés. Mais les experts prévoient déjà de nouvelles hausses l'année prochaine, de 3 à 10% selon le profil.
Et nous sommes en ligne avec le président de la Fédération nationale de la mutualité française. Bonjour Éric Chenu.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Comment expliquez-vous ces écarts et donc ces inégalités finalement ?
Les
coûts en santé ne sont pas les mêmes d'une région à l'autre. Et donc, quand les mutuelles déterminent leurs tarifs, elles adaptent au plus juste des coûts à mettre en œuvre. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que sur un certain nombre de territoires, le niveau de professionnels en dépassement d'honoraires, hein, ce qu'on appelle en secteur 2, qui dépasse les tarifs déterminés par l'assurance maladie, sont plus importantes que dans d'autres régions, ce qui explique ces évolutions de tarifs.
Et les mutuelles ne peuvent pas prendre ça en compte d'une meilleure façon pour réduire ces écarts, réduire ces inégalités aujourd'hui ?
Les mutuelles sont des organismes à but non lucratif. Elles encaissent des cotisations pour payer des prestations et on essaye de mettre en œuvre des mécanismes de mutualisation des risques pour l'ensemble de la population, pour protéger toute la population et d'essayer d'appeler le strict minimum de ce qui est nécessaire. C'est ce que font les 100 000 élus, femmes et hommes, qui prennent ces décisions en responsabilité pour garantir des équilibres durables, mais pour appeler vraiment que de ce qui est vraiment nécessaire. C'est pour ça qu'on a été assez choqués de certains propos qui ont été tenus au Parlement, à l'Assemblée nationale la semaine dernière, qui ont remis en cause l'honnêteté de ces décisions ou la qualité des décisions prises. Ce n'est pas acceptable.
Mais c'est vrai qu'on peut vous poser la question de cette nécessité, parce que sur les 5 dernières années, les tarifs ont bondi de plus de 27%. C'est deux fois plus vite que l'inflation.
Et le problème, c'est que les dépenses de santé, elles évoluent aussi beaucoup plus vite que l'inflation. Et nos cotisations, elles évoluent à proportion des dépenses de santé. Nos dépenses de santé, depuis l'année 2019, elles ont augmenté d'un peu plus, presque 75 milliards. C'est ça aussi qu'il faut qu'on prenne conscience. Les financements de l'assurance maladie, malheureusement, ne lui permettent pas d'être à l'équilibre parce que on n'a pas doté l'assurance maladie des recettes nécessaires pour financer toutes ces dépenses. Nous, les mutuelles, nous n'avons pas la possibilité d'être en déséquilibre, ou si on l'est une année, il faut absolument que l'année suivante, on retrouve des équilibres techniques. C'est une obligation réglementaire prudentielle, mais c'est aussi une obligation morale vis-à-vis des populations que nous protégeons pour garantir la solidité, la robustesse des couvertures que nous leur proposons.
Vous évoquiez, Éric Chenu, les débats à l'Assemblée. Le budget 2026 de la Sécurité sociale prévoit une surtaxe pour vous, mutuelle, plus d'un milliard d'euros. Est-ce que les assurés vont en faire les frais l'année prochaine ?
Cette taxe, elle est injuste et injustifiée. L'assurance maladie a besoin de recettes, mais cette solution de facilité qu'ont retenu les députés sur la proposition du gouvernement est vraiment pas la bonne. Mesurez que en 15 ans, les taxes sur les complémentaires santé sont passées de 720 millions à 7 milliards et demi l'année prochaine, si cette taxe est confirmée la semaine prochaine. C'est considérable. Voyez, vous posez la question du pourquoi les cotisations augmentent. Quand vous payez vos cotisations, janvier, février, vous ne payez que des taxes. Et donc, vous commencez à payer votre complémentaire santé seulement début mars. Donc c'est aussi pour ça qu'on conteste cette taxe qui n'est rien d'autre qu'une TVA sur la santé. Quand les taux de TVA augmentent, eh bien mécaniquement ça se répercute sur les biens ou les services a posteriori.
Donc c'est-à-dire, est-ce que ça veut vraiment dire que les assurés vont payer plus cher alors l'année prochaine ou en 2027 ?
Alors, l'année prochaine, j'en doute, parce que les tarifs sont déjà fixés
ça peut être 2027,
pour les mutuelles, mais à un moment donné, il faudra forcément que ce milliard se répercute. Par ailleurs, il n'y a pas que cette mesure dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale. Il y a des transferts de dépenses en hospitalisation qui sont prévus pour plus de 400 millions d'euros vers les complémentaires santé. Tout ça aura des conséquences sur les cotisations et on regrette le choix d'ailleurs du transfert sur l'hospitalisation, parce que ça touche plus particulièrement les retraités qui sont davantage, notamment les plus de 70 ans, davantage hospitalisés et surtout plus durablement hospitalisés. C'est pourquoi nous en appelons, nous, à travailler avec le gouvernement, avec les pouvoirs publics, pour trouver des solutions plus durables. Et c'est aussi pourquoi nous appelons à l'Organisation d'État Généraux de la Santé et de la Protection Sociale pour redonner la parole aux assurés sociaux, redonner la parole aux professionnels de santé, et ensemble construire le système dont on a besoin. Et j'invite tous vos éditeurs à s'exprimer sur placedelasante.fr pour dire ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent pas pour notre système de santé.
Éric Chenu, merci d'avoir pris un moment pour répondre à France Info cet après-midi, vous qui présidez la Fédération nationale de la mutualité française. Le fil info à suivre.
Média en scène, le jeudi 15 janvier à la Maison de la Radio et de la Musique à Paris et en streaming sur mediaenscène.com. Intelligence artificielle, désinformation, écologie, nouveaux modèles économiques. Comment les médias se réinventent dans un monde en pleine mutation. Média en scène, le Festival international des médias de demain, jeudi 15 janvier, un événement Les Échos, Le Parisien et France Info. Inscription gratuite sur mediaenscène.com.
Avec AXA, Engie, BNP Paribas, Webedia et Ipsos BVA.
France Info, midi 15h.
À la une à 14h20, Benjamin Recouvreur. La colère des élus après la liquidation judiciaire de Brandt.
Prononcée ce matin par la justice, 700 salariés vont perdre leur emploi. Le projet de reprise en SCOP, société coopérative de ce fabricant d'électroménager, n'a pas été retenu. Le député socialiste Christophe Chailloux, ancien maire de l'une des villes où se trouve l'une des deux usines, se dit abasourdi et en colère. L'opposante vénézuélienne Maria Corina Machado, prix Nobel de la paix, assure avoir obtenu le soutien de l'administration américaine pour quitter son pays. Elle a rejoint Oslo hier où elle a reçu son prix. C'est le crime le plus diabolique qui soit et tout ramène à Frédéric Péchier. L'accusation se dit certaine de la culpabilité de l'anesthésiste lors des réquisitions qui ont commencé ce matin devant la cour d'assises du Doubs à Besançon. Il est jugé pour avoir empoisonné 30 patients dont 12 sont morts entre 2008 et 2017.
Info. Découvrons à présent le nouvel album de la chanteuse PR2B. Elle a choisi le monde du travail, ses travers, les bullshit jobs, comme on dit en bon français, comme inspiration, comme thème de cet album. Et elle l'a d'ailleurs mis en application avant la sortie de son disque, en accueillant celles et ceux qui le voulaient dans un espace de coworking à Paris. Reportage de Yann Bertrand.
Un café vers la place de la Bastille, des gens qui travaillent, rien ne dénote si ce n'est le dernier album de PR2B qui s'affiche partout, ce synthétiseur au fond de la salle, ou encore
chanson d'urgence.
Un buzzer, chanson d'urgence qu'on peut actionner quand on en a besoin. On retrouve Pauline Rambaud de Barallon, alias PR2B, alors qu'elle sort d'une cabine dans laquelle elle a aidé une fan à écrire une chanson de démission.
C'est aussi une période où souvent ce qu'on a communiqué aux journalistes, c'est pas d'actualité. Par exemple, j'ai composé dans les Cévennes, j'ai vécu avec mes amis. Bon, bah là, je suis pas dans les Cévennes et je suis pas avec mes amis. Donc, il y a toujours un peu une sensation de malhonnêteté vis-à-vis de ce qu'on dit.
C'est quoi la vérité ? Quoi ?
Deuxième album, presque punk, 4 ans après le précédent, parle beaucoup d'aliénation, de liberté, de mémoire, avec le travail comme toile de fond.
Cet album, pour moi, c'est une tentative d'aller vers le collectif, de relier aussi des individus ensemble. Je savais même pas qui étaient ces gens qui allaient venir dans ce bureau. En fait, il y a eu des chercheuses, des chercheurs, des instits, une bibliothécaire, quelqu'un qui s'occupe du relogement de personnes en situation de mal-logement.
Alors je vois des comédies musicales, fuck le banal, j'ai rien fait de mal, pourquoi les gens chanteraient pas dans la rue? Quand tout est moche, quand ils sont trop déçus. Pourquoi
la vie concrète donne donc vie à ce qu'elle avait imaginé dans les Cévennes où elle s'est installée il y a quelques années.
Cet album, je l'ai composé en étant avec mes amis autour de moi qui eux aussi me parlaient de leur vie de bureau, qui me semblait matérialiser beaucoup de choses que moi-même je ressentais, c'est-à-dire la sensation de pouvoir regarder des gens mais ne pas avoir la sensation de communiquer avec.
Du burn-out à la lumière, PR2B chante notamment Bullshit Jobs avec l'inénarrable Philippe Catherine.
Pauline, j'ai bien eu votre email, j'avoue, il m'a un peu surpris.
En imaginant même un générique à son album.
Aujourd'hui, n'allez pas travailler, écoutez plutôt de la musique.
L'ancienne étudiante de la Fémis vit toujours autant sa musique par l'image.
Mon rapport à l'écriture de chansons est très proche de celui du cinéma. Et c'est pas pour rien quand même qu'en sortant de la Fémis, là où normalement j'aurais dû faire des courts-métrages, je fais Océan Forever et que je me retrouve à finalement faire des chansons. C'est-à-dire que j'avais l'impression que mes meilleurs films, en sortant de l'école, c'était les chansons que j'avais faites.
Sans s'interdire, malgré le message pesant, une sorte de happy end.
J'aime la vie, j'aime la vie, j'aime la vie.
Malgré toutes les galères.
PR2B qui sera en concert, en tournée l'année prochaine, le 10 février à Nantes, le 7 mars à Nancy ou encore le 17 mars à La Cigale à Paris. Le monde d'Élodie tout de suite. Élodie Suégo est son invitée.
Bonjour
Bonjour Jane Roxelle.
Bonjour.
Vous êtes cette actrice propulsée devant les caméras sans que vous ne l'ayez imaginé ni réellement souhaité au départ. C'est votre maîtrise du skate, hein, votre moyen de locomotion pour vous rendre en cours d'art plastique qui a d'ailleurs été à l'origine de cette entrée en matière réussie sous la direction compliquée du réalisateur américain Larry Clark, hein, pour le film The Smell of Us. C'est le film La tête haute d'Emmanuel Berco qui vous a révélé ses volontaires d'Hélène Filière qui vous a valu de décrocher le prix Romy Schneider et donc d'être confirmé. Aujourd'hui, vous êtes à l'affiche du film Louise de Nicolas Quaitel aux côtés de Cécile de France, où l'histoire de Marion qui décide un beau jour à la suite d'une dispute entre sa mère et son compagnon de commettre l'irréparable en voulant défendre sa mère, ce qui la pousse également à faire une fugue et à quitter le domicile familial pour démarrer une nouvelle vie sous une autre identité, donc Louise. Et puis un jour, elle retrouve la trace de sa mère et de sa petite sœur et renoue sans leur dire qui elle est, ce qui va engendrer un dilemme, rester Louise ou redevenir Marion. Ce film montre avant tout à quel point les histoires d'adultes ne devraient pas impacter une vie d'enfant. Est-ce que c'est ça le message principal?
Ouais, c'est surtout un film sur la famille, mais c'est vrai que c'est un film qui traite des violences conjugales, mais qui parle surtout des victimes collatérales qui sont les enfants. Donc c'est ce qui m'a aussi vachement touchée dans le scénario, qui m'a fait beaucoup pleurer quand je l'ai lu. Et ensuite, j'ai rencontré Nicolas qui m'a proposé le rôle de Louise en me disant voilà, je te propose ce rôle-là, mais Louise est aux antipodes de qui tu es. Il fallait que je trouve quelque chose avec ce personnage de beaucoup plus sombre, en tension, comme ça, tout le temps. Donc on a travaillé ma diction, et j'ai essayé de parler plus lentement, de trouver une voix un peu plus grave et une posture un peu différente. Parce que j'aime bien appréhender mes rôles avec le corps. J'ai toujours besoin de leur trouver une posture.
Dans les éléments de langage, il y a le silence, par exemple. C'est difficile au cinéma de mettre en exergue les silences. Et je voudrais qu'on parle justement de ce phrasé que vous avez dû modifier, changer, où finalement, la seule place possible était celle de l'émotion.
C'est ça, c'est un personnage qui parle peu. Et je crois que Nicolas, enfin c'est ce que Nicolas dit, mais il m'a choisi parce qu'il aimait mon regard. Il trouvait que j'arrivais à faire passer beaucoup d'émotions à travers mon regard. Et oui, en fait, elle est toujours sur la limite d'exploser, quoi. En fait, on voit tout sur son visage. Et d'ailleurs, le film est un peu agencé comme un puzzle. Et en fait, on découvre toutes les pièces du puzzle avec elle. D'ailleurs, j'ai été filmée très proche. Donc, en fait, on traverse tout avec elle. On a vraiment toutes ses émotions. Et c'était un peu perturbant pour moi, comme d'avoir un personnage qui a du mal à cacher ce qu'elle ressent. Là où j'avais déjà eu des rôles de femmes qui avaient des secrets, mais qui arrivaient à bien les cacher. Et là, c'était un peu perturbant. Nicolas me dirigeait souvent en me disant, mais n'aie pas peur, vas-y encore plus. Je veux pas de sourire. Un personnage qui a une forte couleur comme ça, très sombre et qui a du mal à cacher ses émotions.
Le début du film nous plonge dans la vie de Marion, enfant, grande sœur et petite fille dévouée. Puis Marion devient cette jeune femme. Louise est devenue donc journaliste, photographe. Elle est devenue croqueuse d'images en quelque sorte. On se rend compte aussi de la puissance et de l'importance de l'image. Je voudrais que vous m'en parliez, Diane, parce que vous êtes très attirée par l'image.
Oui, il y a sûrement un peu de ça. Après, c'est un truc assez naturel chez moi parce que je suis entourée de gens qui aiment l'image aussi. Mes frères faisaient de la photo. Donc je sais pas, j'ai toujours été attirée par ça. J'ai commencé en faisant des études d'art plastique. Et je sais pas pourquoi, ouais, depuis petite, j'ai toujours aimé la photo, la caméra, être autant devant que derrière.
Je me posais la question de savoir aussi à quel moment vous êtes sentie actrice.
Bah, en fait, j'en ai toujours eu un peu envie, mais en me disant que c'était impossible, parce que comme j'ai grandi en Haute-Savoie jusqu'à mes 17 ans, et en arrivant à Paris, donc j'ai eu cette opportunité de jouer dans le film de Larry Clark parce que je faisais du skate, bah là, j'ai adoré jouer, quoi. J'ai vraiment aimé ça et retrouver un peu les sensations que j'avais quand j'étais petite et que je faisais ces films avec mes frères. Et c'est vraiment, je pense, quand j'ai été prise avec un casting, parce que j'ai passé 3 tours de casting, je crois, pour le film d'Emmanuel Berco. J'avais vraiment l'impression d'avoir travaillé pour avoir le rôle et de l'avoir décroché parce que j'avais été bonne en casting. Donc non, c'était vraiment, je pense, avec le film d'Emmanuel Berco et ensuite peut-être Volontaire, où là, Hélène Filière m'a offert mon premier grand rôle, mon premier rôle.
Il y a une femme qui est très importante dans votre vie, c'est votre grand-mère.
Oui.
Son élégance vous a toujours fasciné. Elle vous a appris à ne jamais être dans le jugement, à toujours vous mettre à la place des autres. C'est votre boussole de vie?
Ouais, je pense très souvent à elle. Elle a toujours fait très attention aux autres. Quand elle rencontrait quelqu'un, la première question qu'elle avait, c'était de lui demander qu'est-ce qui l'animait dans la vie, qu'est-ce qui la rendait heureux. Enfin, elle était très... Parfois, elle déstabilisait un peu les gens parce qu'elle rentrait tout de suite dans quelque chose de très deep. Voilà, je crois qu'elle m'a appris aussi à savoir ce qui était vraiment important dans la vie, que c'était vraiment les relations relations entre les gens, l'amour, tout ça.
Ce qui est fort, c'est que quand on regarde ce film, on a l'impression de l'avoir apparaître sur votre visage.
C'est vrai qu'en tout cas, Louise, c'est un personnage qui pense plus aux autres qu'à elle. Toutes ses décisions, elle les prend pour le bien-être, le fait de ne pas forcément dévoiler son identité. Ce n'est pas seulement pour elle, mais c'est pour ça, ça, c'est pour toujours protéger les autres.
Merci beaucoup, Diane Roxelle, d'être passée dans le monde d'Élodie sur France Info.
Merci à vous.
Vous êtes bouleversante dans ce film, Louise, que je conseille vraiment et vivement à tout le monde. Merci beaucoup.
Bah, merci à vous.
C'était le monde d'Élodie que vous retrouvez sur franceinfo.fr.
France Info Météo, avec les cafés Malongo, torréfacteur engagé depuis 30 ans dans le commerce équitable. Les petits producteurs font les grands cafés sur malongo.com.
Et avec Céline Dacosta.
Les nuages bas jouent les prolongations sur la moitié nord, avec même quelques ondées sur le nord-ouest et une nouvelle perturbation qui arrivera par la Bretagne dans la soirée. Plus au sud, en revanche, l'ambiance est plus lumineuse. Du sud-ouest à la région PACA, en passant par le massif central, de belles éclaircies réussissent à percer les nuages et le vent d'automne se met en place sur les plaines toulousaines. En revanche, on a toujours des nuages bas et nombreux sur le Languedoc-Roussillon. Quant aux températures, elles restent plutôt douces et toujours au-dessus des normales de saison selon Météo France. On prévoit 9 à 13 degrés sur la moitié nord, 12 à 16 degrés plus au sud et pour la maximale, on ira jusqu'à 18 degrés à Biarritz ou encore à Ajaccio.
Vous êtes sur France Info, merci, bon après-midi, il est 14h30. Virginie Lebrun pour l'info.
Et d'abord, cette dernière information, la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique lance un contrôle pour déterminer le rôle tenu par Christophe Castaner auprès de Chine. C'est ce qu'elle indique à France Télévisions cet après-midi dans le cadre de son émission Complément d'enquête. Véronique Louwagie, ministre du Commerce de décembre 2024 à octobre 2025, il énonce une forme de lobbying de la part de l'ancien ministre de l'Intérieur en faveur de la plateforme asiatique d'ultra fast fashion. Brandt tire le rideau, 700 emplois près d'Orléans et à Vendôme vont être supprimés. La justice a prononcé ce matin la liquidation judiciaire du groupe d'électroménager. Le projet de société coopérative était la dernière offre sur la table. Elle n'a visiblement pas convaincu le tribunal. Alexis Morel, vous êtes à l'usine de Saint-Jean-de-la-Ruelle, près d'Orléans. Les salariés sont sous le choc.
Oui, à la sortie d'une réunion improvisée avec les patrons du site, les élus locaux aussi, les visages sont fermés, chacun passe les portillons avec des sacs dans les bras, quelques affaires personnelles. Malika travaillait ici depuis 1997, comme toute sa famille avant elle.
Il y a eu grand-père maternel, mère maternelle, ma mère, mon père, mon oncle, mon frère et moi, un dernier là. Voilà. C'est 27 ans de présence réduite à deux pauvres, malheureux petits sacs.
Vous repartez avec vos affaires?
Oui, on repart comme des malheureux là, Et des échanges de loyers à payer, des échanges de factures.
Des salariés qui ont appris la liquidation dans les médias ce matin, d'autant plus violent que beaucoup croyaient au projet de reprise en SCOP. Sandra a 3 ans et demi d'ancienneté.
On avait espoir, on avait vraiment beaucoup d'espoir. Puis il y avait l'État qui avait quand même donné d'argent. La SCOP, ça l'aurait fait. On pensait comme Duralex que justement on aurait pu continuer comme ça, quoi.
Et son collègue Laurent le rappelle, avec Brandt, c'est tout un pan de l'industrie française qui disparaît.
C'est l'entreprise qui a inventé la table à induction. Les temps changent, donc tout le monde se met à faire de l'induction, y compris les pays concurrents. On n'a pas vu les choses changer. Puis voilà, on s'est fait manger l'herbe sur le dos, c'est clair. C'est fini, on était les derniers.
Alors quel avenir maintenant pour ces 700 salariés? Ils ont rendez-vous dès lundi pour connaître les démarches qui les attendent chez France Travail.
Merci Alexis Morel à Saint-Jean-de-la-Ruelle où se situe la principale usine du groupe Brandt placée en liquidation judiciaire. Vous étiez avec Geoffrey Marianne pour la liaison technique. Le siège national de la Ligue pour la protection des animaux à Rochefort en Charente-Maritime a été vandalisé la nuit dernière. La LPO dénonce des pratiques d'intimidation inacceptables et indignes. Ces actes ont été revendiqués par les membres de la Coordination Rurale 17. C'est la section départementale du syndicat agricole. À Toulouse, la Cour administrative d'appel rendra son arrêt sur le projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse le 30 décembre prochain. Elle dira alors si l'autorisation environnementale du chantier d'A69 est valide ou non et par conséquent si les travaux peuvent reprendre. C'est ce que recommande en tout cas le rapporteur public, un avis qui est en général suivi par les magistrats. Les réquisitions au procès Péchier, l'ex-anesthésiste est jugé pour 30 empoisonnements, dont 12 mortels entre 2008 et 2017 au sein de deux cliniques privées de Besançon. Ce n'est pas un médecin que vous jugez, mais un criminel qui a utilisé la médecine pour tuer, a martelé l'avocat général. Rien ne relève du hasard. Tout ramène à l'accusé qui a commis trop d'erreurs, selon le parquet, qui dénonce le crime le plus diabolique qui soit, car on n'attend pas le crime derrière le soin. Enfin, une loi pour garantir un avocat aux enfants placés ou protégés. C'est ce qu'a adopté ce midi à l'unanimité l'Assemblée nationale. Une proposition de loi qui vise à garantir un professionnel pour défendre les droits de chaque enfant sous mesure d'assistance éducative. Ce texte faisait partie de la journée réservée aux propositions du groupe socialiste.
Virginie Lebrun, merci. Dans un instant, on va ouvrir le panier de Noël de France Info. Ce qui a augmenté, ce qui coûte le plus cher cette année et à l'inverse, ce qu'il est préférable de mettre dans votre caddie pour les fêtes. Rendez-vous dans une dizaine de minutes. Tout de suite, la colère des éleveurs de bovins.
France Info, midi 15h, Marie Bernardo.
Nous sommes en Ariège avec Théo Cobel, ici Occitanie. Bonjour Théo.
Bonjour.
L'Ariège où un troupeau de bovins doit être abattu en raison encore d'un cas de dermatose nodulaire contagieuse. Plusieurs centaines d'agriculteurs se sont rassemblés autour de ce village des Bordes-sur-Arize pour bloquer les routes autour de l'exploitation et tenter ainsi d'empêcher les services vétérinaires d'euthanasier les 207 bovins, Théo.
Oui, les agriculteurs qui se préparent au rapport de force positionné, vous le disiez, avec leurs tracteurs de chaque côté de cette route qui mène à la ferme, plusieurs niveaux de barrages pour tenter de bloquer le plus possible une avancée des forces de l'ordre. La tension qui est vraiment montée d'un cran ici, lorsque les représentants du mouvement ont annoncé le rejet par les services de l'État du protocole d'accord, celui proposé hier par les syndicats agricoles, et donc l'arrivée possible des forces de l'ordre pour permettre l'abattage des bêtes par les services vétérinaire. On a vraiment senti dans la foule tout d'un coup une montée de la colère, une détermination aussi pour sauver ces 207 vaches, pour soutenir également l'agriculteur touché. Les manifestants qui se sont donc positionnés et s'échangent en ce moment même des vidéos prises un peu plus bas dans la vallée où on voit justement les fourgons de CRS avancer.
Et vous nous tenez au courant, nous reviendrons vers vous dans les minutes, les heures qui viennent. Théo Cobel, ici Occitanie, en direct des Bordes-sur-Arize. Édouard Marguier, spécialiste agriculture de France Info, nous a rejoint. Bonjour Édouard.
Bonjour.
C'est donc là une nouvelle manifestation de colère des agriculteurs sur ce même sujet.
Oui, effectivement, ce qui se passe en Ariège aujourd'hui, c'est exactement la même chose, en plus grand, j'avais envie de dire, que ce qui s'est passé dans le Doubs la semaine dernière. La Confédération Paysanne, troisième syndicat, avec la Coordination Rurale, deuxième syndicat agricole, qui s'oppose donc à l'abattage d'un troupeau, qui s'oppose plus largement aux mesures de l'État pour lutter contre cette maladie. Les gendarmes, la semaine dernière, avaient dû utiliser du gaz lacrymogène pour accéder à cette exploitation et pour abattre le troupeau. On verra ce qui va se passer dans le sud-ouest.
Et on va voir ce que peut devenir effectivement ce mouvement avec vous. Édouard, mais arrêtons-nous sur cette maladie précisément avec vous, Valentine Joubin, cellule décryptage de France Info. Quelle est cette maladie, la dermatose nodulaire, apparue pour la première fois en France à la fin du mois de juin?
Oui, la DNC, c'est une maladie qui touche uniquement les bovins. Elle se transmet dans la majorité des cas par la piqûre d'une mouche ou d'un taon. La transmission d'une vache à une autre est beaucoup plus rare. La DNC n'est pas transmissible à l'homme, ni par contact avec des insectes ou bovins infectés, ni en consommant de la viande de bêtes contaminées. Comment la maladie se manifeste? Alors la particularité de la dermatose nodulaire, c'est que le temps d'incubation est long, 2 semaines en moyenne, mais il peut parfois s'écouler jusqu'à 1 mois avant que les symptômes typiques de la maladie n'apparaissent. Ça commence généralement par de la fièvre, des signes de grande fatigue, des écoulements aux yeux et au nez, et puis des nodules se multiplient sur les muqueuses de l'animal, des petites bosses, d'où le nom de dermatose nodulaire. La DNC est extrêmement contagieuse, mais toutes les bêtes contaminées n'en meurent pas. Le taux de mortalité est évalué en moyenne à 10% du troupeau et ça peut monter à 45% pour certaines races laitières.
Alors quels sont les moyens, Valentine, de lutte contre la DNC? L'abattage des troupeaux où la maladie a été identifiée, mesure très contestée, on vient de l'entendre, en fait partie.
Oui, la dermatose nodulaire contagieuse est classée maladie de catégorie A par le droit européen, ce qui oblige la France à mettre en place sans délai des mesures pour l'éradiquer. La principale mesure, c'est l'abattage des troupeaux où la DNC a été détectée. Depuis fin juin, plus de 2700 animaux ont été euthanasiés. Un peu plus de la moitié l'ont été dans une zone qui se situe entre la Haute-Savoie, la Savoie et l'Ain. En plus de l'abattage des bêtes, le plan d'urgence prévoit aussi des zones réglementées autour des foyers de contamination où les déplacements de troupeaux sont limités et l'état de santé des bêtes scruté. Et puis une campagne de vaccination est en cours. Elle se limite limite aux élevages qui sont autour des foyers contaminés, car vacciner plus largement obligerait à stopper net les exportations de vaches et de veaux français.
Est-ce qu'on sait comment la maladie, la dermatose nodulaire, est entrée en France ?
Il n'y a aucune certitude, hein, seulement des hypothèses. La DNC serait arrivée en France via l'Italie, plus précisément de la Lombardie, où un foyer a été identifié le 22 juin dernier. Le premier cas français a été identifié une semaine plus tard dans le département voisin de la Savoie. La DNC pourrait avoir été importée en Italie depuis la Tunisie, un pays très touché par cette maladie. La dermatose nodulaire est présente au Maghreb de façon endémique depuis le début des années 2000, mais aussi en Afrique subsaharienne et en Asie depuis plus longtemps encore.
Et je me tourne à nouveau vers vous, Édouard Marguier, spécialiste agriculture de France Info. Nouvelle manifestation donc aujourd'hui en Ariège, nous y étions. Manifestation également dans les Hautes-Pyrénées. Le mouvement de contestation fait tache d'huile, comment l'expliquer ?
Alors ça couve depuis longtemps, hein, depuis même l'apparition de la maladie en Savoie. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Confédération Paysanne, très vite rejointe d'ailleurs par la Coordination Rurale, remet en cause la stratégie de l'État depuis la propagation de la maladie à d'autres régions que la Savoie. Car cette maladie est arrivée dans l'Ain, dans le Jura, dans le Doubs, puis dans le Sud-Ouest. C'est la preuve pour ces syndicats que l'abattage est inutile. Perdre un troupeau, il faut le rappeler, il faut le souligner, c'est terrible pour un éleveur. Il perd des dizaines d'années de travail, car un troupeau, ça se construit. Même s'il est indemnisé, il perd quand même beaucoup. Et c'est pourquoi il demande d'euthanasier uniquement les bêtes malades. Ça, ils demandent depuis cet été. Ils veulent ainsi exposer toutes les autres vaches à cette DNC. Ils proposaient même de faire cette exploitation dans l'Ariège un test grandeur nature, un protocole alternatif qui a donc été refusé. Théo Cobel, le reporter, nous le disait il y a quelques instants. L'État, de son côté, en revanche, affirme que c'est une bonne stratégie, car ces mesures, abattage, vaccination autour des foyers et interdiction de transport d'animaux, sont efficaces dans les zones qui ont été touchées. La Savoie, par exemple, est sortie de ses règles. Elle n'est plus en zone réglementée, comme le Rhône, d'ailleurs. Pour l'État, la DNC continue de se propager à cause, finalement, d'éleveurs qui ne respectent pas ces règles. Certains, dans des zones touchées, c'est avéré, ont bougé des bovins malgré les interdictions. Et puis, il faut aussi relativiser le nombre de bovins abattus. 3000 vaches abattues depuis cet été sur 16,5 millions de bovins en France, 74 élevages concernés sur 146 000 exploitations consacrées à l'élevage en France.
Pourquoi l'ont-ils fait alors ?
Eh bien parce qu'ils veulent continuer à travailler, ces éleveurs, dans un contexte où le prix de la viande bovine est très haut. Le prix carcasse, c'est-à-dire le prix moyen, c'est ce qui revient à l'éleveur, est à quasiment 9 euros le kilo actuellement. C'est 20% de plus que l'an dernier. Des éleveurs, me l'ont dit, n'ont jamais vu ça de leur carrière. C'est donc tout sauf le bon moment de perdre son cheptel. C'est pourquoi on assiste à ça dans des terres d'élevage. Le Doubs, évidemment, terre de production du comté, en sachant qu'une vache laitière, quand elle vieillit et qu'elle ne peut plus faire de lait, elle devient une vache de réforme destinée à la viande. Et le Sud-Ouest, on l'a entendu, avec des élevages de bovins destinés à la viande.
Alors, les syndicats agricoles, Édouard, demandent la généralisation de la vaccination à tous les bovins du pays. Pourquoi la ministre refuse-t-elle ?
Eh bien, parce que les conséquences économiques seraient désastreuses. C'est la Coordination Rurale qui le demande, ainsi que la Confédération Paysanne. Parce que si la France décide de vacciner tous ses bovins, elle reconnaît que la maladie est partout. Elle perd donc son statut de pays indemne. Donc on ne peut plus exporter. Sauf que la filière de production de viande bovine en France a besoin de l'étranger. En France, on fait naître des veaux qu'on envoie en Italie ou en Espagne pour être engraissés. Ils ont développé ces filières, ce sont les meilleurs en Europe pour cela. Et puis on récupère ces animaux, ces bovins, pour être abattus en France et consommés en France. Si la France perd son statut indemne, ça bloque tout pendant 14 mois, alors que c'est une filière importante. Nous sommes le premier pays exportateur d'animaux vivants au monde. Les montants générés par les envois de bovins ont dépassé le milliard d'euros l'an dernier, selon les douanes. Sauf accord. Parce que la France a réussi à en passer un avec l'Italie il y a 3 jours seulement, mais sur la stratégie actuelle. L'Italie n'a pas dit oui pour toutes les régions. Elle a dit oui pour les zones réglementées, les zones touchées. Cet accord permet donc aux bovins vaccinés et aux veaux nés de mères vaccinées des zones touchées donc d'être expédiés vers l'Italie, sous réserve évidemment d'une protection très, très drastique. Au dernier Parlement de l'élevage, c'est comme ça qu'on appelle ce lieu de réunion avec tous les acteurs de la filière, la ministre a dit réfléchir quand même à une vaccination généralisée avec une clause de revoyure en janvier. Ça pourra peut-être bouger avant, vu la contestation qui se met en place. Une réunion, me dit-on, est en cours au ministère de l'Agriculture en ce moment même.
Est-ce que ça peut être le début, Édouard, ce sera de ma dernière question, d'un mouvement d'ampleur ?
Ben écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que c'est très, très, très tendue dans le monde agricole en ce moment. Et ce n'est pas un hasard si la situation est en train de déraper, d'échapper aux autorités dans le sud-ouest. La coordination rurale a pris bon nombre de chambres d'agriculture il y a un an. Ils sont en opposition frontale avec l'État. Et le nouveau président Bertrand Ventot, lui-même éleveur de vaches limousines en Haute-Vienne, a été élu à la tête du syndicat car il prône des actions musclées. Et puis, je vais le redire, le souligner ici, il y a toujours ce projet de traité de libre-échange entre l'Union européenne et les pays sud-américains du Mercosur. La réunion des 27 dirigeants européens la semaine prochaine à Bruxelles va décider du sort de ce traité. On va tout droit vers une signature, il faut le dire clairement, parce que la France semble seule à s'opposer à ce projet de traité. Un accord qui prévoit, on le dit, on le rappelle ici, l'importation de viande bovine, 99 000 tonnes de viande bovine à droit de douane réduit.
Édouard Marguier, spécialiste agriculture de France Info. Merci Édouard. La lutte contre le narcotrafic au cœur d'une nouvelle réunion à l'Élysée. Aujourd'hui, le marché de la cocaïne dépasse maintenant celui du cannabis, des stupéfiants consommés en ville, en zone rurale, mais aussi dans les quartiers dits prioritaires, qui voient affluer un autre problème, le protoxyde d'azote détourné de son usage. À Billy-Montigny, une ville proche de Lens, dans le bassin minier du Pas-de-Calais, des éducateurs de rue se forment pour mieux sensibiliser les jeunes consommateurs qu'ils voient au quotidien. Reportage d'Augustin Ourlier.
J'ai remarqué en ce moment, quand je fume, ça me...
T'as des nausées,
toi ? Ça me tord les voyaux. Hein.
Voilà une discussion que les éducateurs de rue peuvent avoir tous les jours.
T'en fumes beaucoup, des clopes ?
Bah comme ça, avec eux, tu vois, quand on sort... Quand
ici, une éducatrice joue le rôle d'une ado qui se pose des questions sur sa consommation de cigarettes.
C'est ça, il y a plein de petits trucs qui existent pour essayer de limiter la clope si t'as envie... Substitut, moi je suis passé à la clope électronique, j'ai fumé pendant 15 ans.
Cette formation sur les drogues, ce sont les éducateurs eux-mêmes qui l'ont demandé. Après un constat alarmant, depuis plusieurs années, ils trouvent de plus en plus de bonbonnes de protoxyde d'azote par terre, pendant leur maraude tous les jours. Nordine, éducateur de rue à Billy-Montigny.
À l'époque, on retrouvait des petites bonbonnes en métal là, qui faisaient quelques centimètres. Là, maintenant, c'est des bonbonnes qui font quelques kilos. En soirée, on peut voir des véhicules passer ou des personnes ont des ballons dans la voiture en train de conduire. Donc, c'est quand même devenu un vrai fléau.
Et qui dit nouveau stupéfiant, dit nouveau risque.
Un jeune qui s'est endormi finalement sur le petit bouchon en plastique de la bouteille de proto.
Théo, éducateur de rue dans plusieurs villes du Pas-de-Calais.
Et ça lui a gelé la lèvre et la lèvre s'est complètement ouverte, quoi. Avec le froid. D'où l'intérêt de la formation, c'est aussi un petit ambivalence dans notre poste d'éducateur, c'est aussi apprendre les risques et comment consommer correctement, parce que de toute façon, ils consommeront sûrement.
Dans les faits, l'éducateur se retrouve impuissant face à cet effet de mode autour du protoxyde d'azote.
On arrive toujours à rebours, c'est-à-dire que les choses sont là et on a rarement le coup d'avance en fait, sur les nouvelles consommations. Ça va faire partie du paysage, il faudra faire avec et finalement, quelle sera la prochaine, quoi. C'est juste ça, c'est ce qu'on se dit.
Le problème, c'est que d'autres stupéfiants débarquent en masse dans les quartiers prioritaires du Pas-de-Calais.
De la coke, de la kétamine.
Une diversification des drogues qui ne fait pas peur à Théo.
Il y a 15 ans en arrière, s'envoyer un litre de whisky à 17 ans, c'était tout aussi problématique qu'un gramme de coke par jour. C'est la substance qui change, mais finalement, l'accompagnement restera... entre guillemets, plus ou moins même, on est là pour les aider. Juste s'adapter, essayer de répondre au plus près à leurs besoins.
Théo voudrait des formations plus régulières pour permettre aux éducateurs de suivre le rythme.
Reportage signé Augustin Ourlier.
France Info. Midi 15h.
Le panier de Noël de France Info après le fil info, 14h46. Virginie Lebrun, l'avenir du chantier de l'A69 en suspens.
L'autorisation environnementale du projet d'autoroute est-elle valide? Les travaux vont-ils reprendre? Décision le 30 décembre prochain. La cour administrative d'appel de Toulouse a mis en délibéré son arrêt. On est en train de tuer nos marques françaises, le savoir-faire français. La réaction sur France Info de Christophe Marion, député Renaissance du Loir-et-Cher, après l'annonce de la liquidation judiciaire de Brandt. 700 emplois vont être supprimés. Bercy exprime sa profonde tristesse après la fin annoncée de ce fleuron français. Le siège national de la Ligue pour la protection des oiseaux à Rochefort en Charente-Maritime vandalisé la nuit dernière. La LPO dénonce des pratiques d'intimidation inacceptables et indignes revendiquées par les membres de la coordination rurale 17. Une loi pour garantir un avocat aux enfants placés ou protégés, c'est ce qu'a adopté ce midi à l'unanimité l'Assemblée nationale sur proposition du groupe socialiste. Une proposition de loi qui vise à protéger les droits de chaque enfant sous mesure d'assistance éducative, qu'il soit en famille d'accueil, en foyer ou suivi dans sa famille par les services sociaux.
France Info.
Toute la journée sur France Info, on déballe le panier de Noël, dinde, foie gras, bûche glacée, saumon fumé. Vos courses des fêtes de fin d'année coûtent près de 2 euros de moins cette année. Résultat de l'enquête menée par le cabinet Nielsen IQ pour ICI, Aix-France Bleu et France Info. Bonjour Géraldine Oudéier.
Bonjour.
Le prix total de nos 12 produits festifs est de 155,30 €. Légère baisse de 1,1% par rapport à l'an dernier, qui ne doit pas cacher, Géraldine, l'explosion du prix du chocolat, des chocolats.
Oui, cette année, la boîte de chocolat de marque de 345 grammes coûte presque 15 €, hein, 14,80 € pour être précise. C'est 2,70 € de plus que l'an dernier. On est quasiment sur un produit de luxe, hein, seulement 3 € de moins qu'un bocal de foie gras. Et si on veut un ballotin de marque, quelle que soit la taille, on ne trouve plus grand-chose à moins de 10 €, observe Nielsen IQ. Alors cette hausse, elle s'explique par l'envolée des cours du cacao, un prix multiplié par 5 en 2 ans, en cause les aléas climatiques qui ont fait chuter la production, alors que la demande mondiale est toujours plus forte. Résultat, en 3 ans, la boîte de chocolat a augmenté de 55%.
Une hausse que les chocolatiers répercutent, c'est le cas en tout cas dans cette boutique à Corba dans le Rhône, reportage de Mathieu Bonnour.
Des pralinés, des caramels, des ganaches, des petits Pères Noël en chocolat. Les vitrines débordent pour cette fin d'année. Sandrine, une cliente fidèle, repart avec quelques gourmandises.
Une petite boîte de chocolat et ça c'est plutôt pour mon mari qui adore la guimauve et il les mange qu'ici. Et là j'en ai eu pour 27,50 €. Cette année c'est vraiment une grosse augmentation. Pour les fêtes on se lâche un petit peu. Faut bien en plus, hein. Ça devient un peu morose la vie sinon. Hein.
Derrière la caisse, Marie vient travailler pour les fêtes de fin d'année depuis 10 ans.
Quand j'ai commencé, le petit ballotin, il était à 16,50 €.
Et aujourd'hui,
près.
Ce petit ballotin,
il a 23,50 €.
Avec beaucoup de questions autour de ces prix qui gonflent, il y a eu 2 augmentations cette année dans cette boutique.
Je leur explique que le chocolat, en fait, le coût du chocolat a augmenté. Donc forcément, ça se répercute sur les prix.
À l'arrière du magasin, toutes les machines tournent à fond. La période des fêtes de fin d'année est décisive. C'est la moitié du chiffre d'affaires.
Je trempe encore le praliné spéculoos. Donc c'est un peu notre produit de Noël.
Céline Boucher, la chocolatière, est obligée de monter les prix. Elle montre dans sa chambre froide les sachets de chocolat empilés jusqu'au plafond.
Au kilo, on est passé entre 27 et 30, voire plus des fois. C'est en fait, le cacao, en 10 ans, il a doublé.
Et encore, elle rogne sur ses marges pour limiter la hausse des prix. Seule solution pour garder ses clients, elle passe donc plus de temps dans l'atelier.
C'est assez atypique chez moi, chez mon atelier au rez-de-chaussée de ma maison. Et mon but, c'était de pouvoir lier ma vie de maman à ma vie professionnelle.
Sans ça, elle ne pourrait pas voir sa fille, surtout cette année. Cette chocolatière est toute seule à la fabrication pour la première fois depuis longtemps.
Vu que je suis une petite entreprise, je rentre sur le personnel, je fais plus d'heures et je prends moins de gens pour m'aider. On n'a pas le choix. On fait attention aux autres postes à côté, en fait. Plus attention qu'il n'y ait pas de rupture. Là, je disais à mes employés, s'il y a une rupture, tant pis, en fait, je ne peux pas être de partout. Donc, il y a des choses qu'on ne fait pas ou il y a des choses qu'il n'y aura pas. Parce que ça me prend trop de temps et à côté, je ne gagne pas de sous.
Quand elle regarde le détail des tickets de caisse de ses clients, en moyenne, ils achètent presque 2 produits de moins que l'année dernière.
Voilà pour le chocolat et ce reportage de Mathieu Bonnour, Géraldine Oudéier. Autre produit qui flambe, les surgelés.
Oui, pour les pommes noisettes surgelées, on passe de 2,50 € à 3 € le kilo. C'est le prix de l'énergie qui peut notamment expliquer ces hausses. Le sachet de noix de Saint-Jacques augmente également de 10%. Pour ce qui est de la volaille, les cas récents de grippe aviaire ne font pas encore grimper les prix. L'épidémie qui reste encore contenue est arrivée trop tard pour les faire flamber. La dinde fermière est stable. Le bocal de foie gras, lui, est en baisse. Il coûte presque 2 € de moins. Cette année, la production revient à la normale après des vagues d'abattage massif. Alors si vous êtes plutôt saumon fumé pour l'entrée, sachez qu'il poursuit sa baisse. Moins 45 centimes le paquet d'une dizaine de tranches. Il faut dire qu'il est de moins en moins associé au fait. On en mange toute l'année avec une offre très large.
Bon, j'ai faim maintenant. Au rayon des desserts, on a une bonne nouvelle, Géraldine.
Oui, la bûche glacée de Sipar coûte aussi moins cher. 2 € de moins, affichée à 8 € cette année. Mais c'est une baisse en trompe-l'œil. De moins en moins de desserts de Noël contiennent du chocolat est devenu trop cher. Cette année, dans vos rayons, vous verrez beaucoup plus de bûches aux fruits, au caramel ou encore aux fruits secs. Le champagne, lui, coûte aussi 2 € de moins que l'an dernier. La filière en difficulté a des stocks à écouler, mais si vous voulez vraiment faire baisser la note, sachez qu'une bouteille de crémant AOP coûte 7,30 €. Cette année, c'est 18 € de moins qu'un champagne.
Il vaut mieux un bon crémant qu'un mauvais champagne.
Exactement.
Merci Géraldine Oudéier, rédactrice en chef adjointe au web d'ICI, le panier de Noël à retrouver donc sur ici.fr et franceinfo.fr. On évoquait le champagne. Sur les tables des fêtes, il y a effectivement à manger et à boire. Eh bien, le marché des boissons sans alcool, lui, est en plein boom. La tendance a même un nom, le NOLO, contraction d'un anglicisme pour évoquer ces liquides non alcoolisés ou très peu alcoolisés. La preuve, à Marseille, la première cave sans alcool vient d'ouvrir. Reportage de Camille Laurent.
Sarah, 36 ans, a dû arrêter de boire pour des raisons de santé il y a 3 ans et elle appréhende toujours autant les fêtes de fin d'année.
Je suis une ancienne buveuse qui adorait l'univers du vin et du coup, on va pas se mentir, ça me manque. Donc oui, la période de fête est un peu un enjeu.
Elle est ravie de l'ouverture de clubs.